Fortin et Mathias Turcotte. Je vais prendre un petit congé, moi, jeudi, vendredi. Pascal CV sera de retour avec moi pour les deux prochaines semaines par la suite, c'est-à-dire les semaines du 29 juin et du 3 juillet. Mathias, en rafale, avant qu'on passe à Roger Ferland.
Le gouvernement du Québec a dévoilé sa stratégie pour l'avenir de l'audiovisuel québécois. C'est 610 millions sur 5 ans qui sera déployé, notamment pour attirer un jeune public et avoir une présence accrue des histoires québécoises dans l'espace numérique et audiovisuel. Des matchs de la Coupe du monde de soccer seront présentés sur un écran géant au Parc de la Francophonie, et ce, avant le début des concerts du Festival d'été de Québec. C'est ce qui nous a été annoncé. Un nouvel espace appelé de pub sera ouvert dès 14h30 pour les détenteurs de laissez-passer du Festival d'été de Québec au Parc de la Francophonie. Les écrans qui présenteront les matchs de la Coupe du monde basculeront ensuite au concert lorsque les concerts débuteront. Ça va être fantastique de ce côté-là. Et des entreprises et coopératives ambulancières demandent au tribunal administratif du travail d'intervenir. C'est ce soir que les paramédics devraient commencer leur nouveau moyen de pression, celui de refuser des heures supplémentaires partout au Québec. C'est justement plusieurs entreprises et coopératives qui votent devant le tribunal administratif du travail en disant que ce moyen de pression-là contrevient à la décision du tribunal concernant les services essentiels.
Merci beaucoup, Mathias. On va de ce pas rejoindre Roger Ferland, ex-enquêteur au SPVQ, concernant cette fusillade qu'il vient d'avoir à Côte-des-Neiges, quartier de Montréal. Roger, comment vas-tu? Tu viens d'être appelé par plein de gens, j'imagine?
Oui, effectivement. Là, j'ai interrompu mes petits travaux que j'étais en train de faire. J'ai pris connaissance de ce qui se passait.
Exactement.
C'est préoccupant pour tout le monde. Hein?
Ben oui.
Préoccupant pour tout le monde.
Là, Roger, le suspect a été abattu, un policier qui a été blessé. On souhaite que ça se passe bien pour l'état de santé de ce policier-là. Et on avait PO, justement, qui nous écrivait lorsqu'on a fait la nouvelle en disant « Hey, pensez-vous que les policiers vont être capables de l'arrêter sans le tuer, sans l'abattre? » Comment ça fonctionne dans ce type d'événement-là, justement? Jusqu'où on est prêt à aller sans tirer sur l'individu pour l'arrêter? C'est quoi les procédures?
En fait, c'est une question d'opportunité. Lorsque tu fais face à la menace, ton objectif, c'est de la neutraliser. Si le tireur actif, tu vas t'identifier comme policier, tu vas y crier que tu es policier. Mais dépendamment de l'action qu'il va poser, la marge de manœuvre devient très mince. Il risque de s'il pointe les policiers ou qu'il fait feu, de tirer les policiers. Puis on sait déjà son intention. S'il a fait feu sur des gens, à ce moment-là, ben la marge d'erreur devient encore plus diminuée. Là, ou la marge, je parle d'erreur, mais plutôt de manœuvre devient diminuée. Mm-hmm. Tu ne veux pas que la personne prenne ta vie. Alors, c'est des moments où ton objectif n'est pas de tuer, mais de neutraliser la menace et de faire ce qu'il faut pour la neutraliser.
Oui, bien justement, le suspect qui a été abattu au cours des dernières minutes, à partir du moment où il a lancé son coup de fusil sur le policier, son sort était un peu ficelé, là, de ce que je comprends.
Pas nécessairement, Mathias. Parce que si au moment où les policiers l'interpellent, le type, par exemple, il tirait son arme par terre puis qu'il se coucherait au sol, c'est pas vrai, les policiers ne le tireraient pas. Puis c'est là-dessus que les policiers sont formés, à savoir, tu es là pour neutraliser la menace. À partir du moment où tu as la menace, tu as les signes objectifs que tu n'es plus en danger, tu n'es pas justifié de faire feu. Puis ça, c'est la problématique en ce moment qu'on vit. Alors, il ne faut pas penser qu'on est là pour se faire vengeance. C'est sûr, par contre, que, ramenez-moi dans la réalité, là, l'aspect émotif est très grand de ces policiers-là dans ce moment-là. Alors, ton niveau de réaction, la perception que tu as devient très vite, tu peux plus faire feu que ne pas. Mais ça demande beaucoup de calme et de pratique et de coordination pour le faire.
Et là, Roger, c'est le Bureau des enquêtes indépendants qui va prendre justement le dossier en main, compte tenu que mort d'homme et qu'il y a eu coup de feu, autant du côté des policiers que de l'individu?
Oui, rapidement, en fait. En fait, dès que la scène est sécurisée, dès que le périmètre est sécure, et pour les policiers, mais surtout pour le public, là, à ce moment-là, ils ont déjà contacté le BUI, est-ce qu'on comprend maintenant, là? C'est le BEI qui va prendre en charge. Mais le BEI travaille, par contre, avec beaucoup d'informations qui proviennent des policiers terrain. Alors, il faut comprendre que l'identité judiciaire, ça va être celle du SPVM, possiblement, qui va intervenir. Est-ce qu'on va demander peut-être à celle de la Sûreté d'intervenir à la place par souci de transparence? parce qu'on sait qu'en ce moment, on n'a aucune idée de qui est la personne qui a été abattue, c'est qui était le tireur actif, mais la situation, la tension à Montréal ces dernières journées doit sûrement peser dans la balance un petit peu. Mais ils vont collaborer avec des policiers terrain, puis après ça, c'est le BEI qui devient ceux qui commandent les actions policières.
Comment on va transmettre l'information au public? Là, t'sais, autant moi, je m'attends à un point de presse qu'on dise, hey, voici ce qui est arrivé, qu'on nous dise en gros ce qui est arrivé, quelle est la résultante. Je me trompe-tu?
Non, tu ne te trompes pas. Rapidement, là, je sais qu'au Québec, on n'est pas fort là-dessus beaucoup pour donner de l'information rapidement, mais c'est des moments où ce que le public a besoin de savoir, surtout la forte densité de population qu'il y a dans ce coin-là à Montréal, puis même tout le monde est un peu sur les dents, un petit peu, de surveiller ça. Ils ont intérêt à en donner rapidement. Je m'interrogeais tantôt pourquoi est-ce qu'il n'y en avait pas donné avant, par contre, et ça a pris quand même quelques bonnes minutes avant de le faire, mais il y a toujours l'aspect, dépendamment de l'information qu'ils possédaient. Là, tu as à mettre en évidence, est-ce que si tu informes le grand public, tu informes aussi le tireur,
Ouais.
là, à ce moment-là, tu ne veux pas faire ça. Alors,
D'accord.
c'est là qu'il y a des enjeux. Fait que c'est pour ça qu'ils ont utilisé une alerte de type Amber ou Silver d'aviser tous les cellulaires dans ce secteur-là, rester barricadés parce que tireur actif, ça veut dire arrête de te mettre en mouvement parce que le tireur actif va souvent essayer de tirer quelqu'un comme il tire des pigeons, là, tu sais. Fait
Ouais,
que faut que ça bouge en avant de lui. Alors, c'est pour ça que tu te caches. Tu fuis si tu es capable, tu te caches sinon. Puis si tu es confronté avec, ben, selon tes
oui.
capacités, c'est de combattre. Mais on s'entend, ce n'est pas la solution pantoute pour la majorité des citoyens de le faire dans de pareilles circonstances.
À partir de maintenant, là, la situation, un suspect a été abattu. Est-ce qu'on peut prendre
Oui.
en compte que la situation est sécurisée à partir de ce moment-là ou pas nécessairement?
Pas tout à fait, Mathias. Je t'explique. Il y a toujours un principe qu'on a en termes policiers, c'est le 1 plus 1. Là, vois-tu, il a arrêté cette personne-là. Il faut qu'il s'assure qu'il n'y en a pas un deuxième dans l'environnement qui est là. Est-ce qu'il était tout seul? Est-ce que tout fit pour que ça soit lui? Par la suite, ils vont essayer d'identifier le mobile parce qu'il peut y avoir encore là une suite à cela qui peut se dérouler. Puis, il y a toute l'étape de l'enquête après ça. Qu'est-ce qu'il a fait, ce gars-là? C'est qui, ce gars-là, le profil du suspect? À partir du profil, on va peut-être en savoir beaucoup plus. Mais je pense que dès que les policiers en auront assez, faudrait qu'ils rassurent le public en ce moment pour en donner. Fait que il y a des étapes importantes. Fait que quand tu es certain que ton périmètre est garanti, relaisse libre accès aux gens à ce moment-là, mais enquête pour savoir le profil de ce gars-là. Il sort de où? Quelle recherche il a faite avant ou après ses actions? Y avait-tu des cellulaires portables, les amis, ses relations, les banques de données? On va-tu, là, tu tombes dans tout le volet enquête de façon extrêmement importante.
En terminant, Roger Ferland, l'autoroute Descaries est toujours fermée à Montréal. Fait que c'est sûr que ça amène des problèmes de circulation, des problèmes au niveau
Ouf.
des gens. Ça va prendre combien de temps, justement, analyser cette scène de crime-là? On est habitué d'un film à voir ça en temps accéléré. Ça prend un petit 2 heures, 2 heures et demie, puis c'est fait. Mais dans les faits, est-ce qu'on peut être en analyse de la scène de crime, compte tenu qu'il doit avoir plusieurs places pendant une journée, 2 jours, 3 jours?
C'est beaucoup que tu me mets là de 2, 3 journées. Je te parlerai plutôt en termes d'heures, dans les
Ouais.
circonstances, mais ils vont essayer d'y aller en fonction du point central. Du lieu où ça s'est déroulé et versus des périmètres à côté. Fait que dès qu'ils pourront libérer des périmètres pour libérer l'accès en périphérie,
D'accord.
ils vont le faire. Mais là où ils ont très vite bloqué Descaries en demandant à la Sûreté du Québec de le faire parce que c'est eux qui sont responsables de Descaries métropolitain, là. Les grands boulevards, c'est eux qui les ont, les autoroutes à Montréal. Alors, ils ont sûrement pris des ententes. C'est parce qu'ils devaient chercher des traces, des indices de ces gens-là ou des gens en fuite, peut-être. Pour être capable de le faire, puis là, à ce moment-là, de localiser cette personne-là ou d'autres. Mais c'est sûr qu'il y en a pour quelques heures, j'ai envie de dire. Je ne parlerai pas en termes de journée. Peut-être en termes de journée dans la bâtisse, dépendamment de ce qui s'est passé, mais sur le périmètre extérieur, non, ça va être plus rapide que ça.
Ça vient tout juste de rentrer au journal de Montréal des informations, des témoignages de personnes qui étaient sur les lieux. Il y a un témoin en particulier qui dit avoir entendu une trentaine de coups de feu. Roger, une trentaine de coups de feu, pour nous qui est à l'extérieur de ce milieu-là, ça semble beaucoup de coups de feu, me semble.
C'est beaucoup de coups de feu. J'avais entendu quelque chose de similaire tantôt du côté de LLCN. J'ai l'impression que c'est une arme semi-automatique ou automatique que la personne avait dans les circonstances parce que c'est de la façon que les gens l'ont exprimé. Vois-tu, bon, on apprend, c'est sûr, justement qu'un policier de Montréal est décédé.
Ouais, c'est ça. Donc, ça serait nécessairement celui qui avait été atteint, j'imagine.
Peut-être, vois-tu. Puis, est-ce que le policier a eu le temps de riposter? Nos armes à nous ne sont pas automatiques, là. Tu sais, ils sont semi-automatiques. Tu es obligé de faire une
D'appuyer
action
sur la
sur la
gâchette,
détente
là.
à toutes les fois pour l'avoir, là, tu sais. Ça fait que, on n'est pas capable de tirer en rafale, nous autres, de cette façon-là, à moins qu'il y avait déjà une opération policière en cours, ce que l'on ne sait pas. Mais il n'y a rien qui dit ça en ce moment, là, tu sais. Parce que quand on est en opération policière, on a peut-être des armes puissantes avec nous à ce moment-là aussi en place. Mais dans les circonstances, c'est beaucoup de coups de feu, effectivement, Mathias. Puis je pense que la personne était équipée d'une arme semi-automatique pour le faire.
Exactement. Donc, bref, Roger, on va continuer à suivre ça. Je te le dis tout de suite. On va sûrement se parler demain matin dans Marceau le matin, si jamais tu veux réserver une petite plage horaire, parce qu'il va y avoir des développements en cours de journée.
Oui.
T'es juste là dans les 10 minutes qu'on vient de se parler. Bien là, on a appris 30 coups de feu. On a appris le décès du policier.
Oui.
Alors, ça va nécessairement continuer à débouler de cette façon-là. Bref, Roger, c'est une tragédie ce qui vient de se passer à Montréal
Ah
avec un
oui, c'est une
policier abattu.
tragédie, puis vois-tu, tu sais, pour répondre un peu tantôt à Mathias, à quel point ça devient complexe, là, ça veut dire beaucoup plus qu'une scène de crime. Ça veut dire, tu as un périmètre en haut, tu as un périmètre en bas, tu as les coups de feu qui ont été tirés sur la rue, il y a d'autres gens blessés, tu sais, ça vient d'impliquer beaucoup de choses, fait que peut-être qu'on a pour quelques heures, secteur Côte-des-Neiges, à avoir effectivement une congestion.
Roger Ferland, merci beaucoup de ta disponibilité très rapide et on se reparle demain matin, c'est certain, avec les développements qu'il va y avoir sur cette fusillade-là, cette tragédie à Montréal où un suspect a été abattu et un policier du SPVM qui a été tué par balle, qui a perdu la vie. Nos sympathies à la famille du policier. Merci, Roger.
Merci, Bonnie. À demain,
Salut.
bye-bye.
À demain. Roger Ferland, ex-enquêteur au SPVQ. On va l'entendre également demain matin dans Marceau le matin et on va suivre le tout. Sur nos ondes de boulevard 102.1. Cette fusillade à Montréal, je le rappelle, où un policier du SPVM a malheureusement perdu la vie. Le suspect est maintenant abattu. Circulation dans la région de Québec, Mathias?
Oui, 20 direction ouest, c'est difficile. Depuis le début des travaux sur la 20, puis ça continue de l'être, là, c'est entre Taniata et Chemin des Îles, présentement, que c'est au rouge. Également, Charest, direction est, c'est à hauteur de Henri IV, présentement, qui a un léger ralentissement dans le secteur. Shannon, route de la Bravo en direction nord et même en direction sud, là, pour sortir et accéder à la base militaire. C'est là qu'il y a le gros ralentissement en ce moment. C'est du pare-choc à pare-choc. Et petit ralentissement sur Laurentien, direction sud, pour accéder à la capitale. Il y a quoi que ce soit d'autre, ça se passe au 418-971-1021 par texto.
Après la pause, on parle avec Luc Laliberté, chroniqueur en politique américaine. Vrai ou faux, les États-Unis et l'Iran ont enfin des bases solides pour régler le conflit. Et on va parler de la démission du premier ministre britannique Keir Starmer. Restez des nôtres, c'est ce qui s'en vient à l'émission d'En Jase.
De lui redonner leur confiance, ce qui n'a pas fonctionné. Et quand Andy Burnham a gagné dans une récente élection partielle, je mettrais un vieux 2 que c'est M. Burnham qui va être le prochain premier ministre.
Ouais, exactement.
Mais retenez que la situation est très volatile. Retenez le thème de l'immigration qui s'invite dans à peu près toutes les campagnes électorales. Il y a eu une élection hier en Colombie, puis le thème justement du trafic de la drogue, de la criminalité, de la violence, de la migration, ça s'est invité jusque-là. On en débat, nous aussi, de l'immigration ici, entre les partis politiques. On a des avenues qui sont différentes, puis on sait qu'on n'en joue pas toujours de manière très correcte. On s'emporte un peu quand on parle d'imagination. C'est très, très émotif. Et dernière chose, et je m'en voudrais de ne pas le souligner, ça fait 10 ans qu'on a voté pour le Brexit. Et dans ces 10 dernières années, ça a été politiquement très instable. Faites le décompte des premiers ministres auxquels on a eu droit, donc en Grande-Bretagne, depuis le Brexit. M. Starmer ne le disait pas haut et fort, mais il sondait un peu le terrain. Est-ce que l'Union européenne, finalement, on ne serait pas tenté d'y revenir? Parce qu'on l'avait quitté, hein, vraiment sur un, appelons ça sur un coup de gueule, c'était un mouvement
En
émotif.
effet.
Hein? Pas certain qu'on propose la question aujourd'hui et que les gens ne sont pas prêts à retourner. Mais ça survient tout ça dans ce vaste contexte.
Merci beaucoup, Luc Laliberté. On va aller rejoindre en ce moment même Roger Ferland parce qu'il y a des développements dans la fusillade à Montréal. Merci pour tes éclaircissements sur la situation États-Unis-Iran, ce qui se passe également en Angleterre.
Des chances pour nos concitoyens de Montréal.
Vraiment. Merci, Luc, pour ton temps. C'est super apprécié.
Bye.
Salut. Luc Laliberté, chroniqueur politique et producteur des capsules La Liberté en clair. Mathias, avant qu'on parle avec Roger Ferland, fais-nous un résumé parce que là, ça déboule les informations. Là, maintenant, c'est deux policiers qui ont été blessés, un citoyen. Résume-nous le tout.
Oui, selon les informations qui sont sorties au cours des dernières minutes, je vous rappelle la chasse à l'homme qui s'était déroulée du côté de Montréal. Un policier qui a perdu la vie en ce moment, de même qu'un des suspects. On soupçonne toutefois qu'il y avait d'autres suspects. On ne sait pas encore le sort qui a été réservé au deuxième suspect ou s'il y en a plus que seulement deux. Au cours des dernières minutes, ce qu'on nous a appris, c'est que l'hypothèse principale est celle du guet-apens. C'est celle privilégiée par la police présentement, que l'objectif des personnes, ça aurait été d'amener directement des policiers pour par la suite ouvrir le feu. Selon les informations qui nous sont révélées par la presse et le Journal de Québec, le suspect qui aurait écrit un manifeste avant justement l'arrivée des policiers. Par la suite, le tireur qui aurait lui-même composé le 911 installé dans une chambre d'hôtel. Le suspect aurait tiré par la suite sur les premiers policiers qui sont arrivés sur place à partir de sa fenêtre. Une arme longue, un trépied et un télescope ont été découverts dans la chambre en question. Ce qu'on nous apprend maintenant, c'est qu'en plus du policier qui a malheureusement perdu la vie, un autre policier et un citoyen seraient également blessés en raison de l'événement.
Roger Ferland est de retour avec nous en ondes, ex-enquêteur au SPVQ. Roger, c'est tellement préoccupant ce qu'on apprend de minute en minute là, sur cette fusillade à Montréal.
Oui, c'est extrêmement préoccupant. Tu le dis très bien parce que là, vous, tu, on voit que les informations, du moins, qui, telles qu'elles sont décrites par Mathias, ce qui me semble juste aussi dans les circonstances, ben c'est un trap. Là, c'est une, on a trappé des policiers pour les avoir quelque part en situation où ils devaient intervenir avec des gens. Et par la suite, après ça, on les pour essayer de les abattre comme des lapins. C'est pour ça que, vois-tu, la règle dans ça, là, ils ont neutralisé une partie, mais est-ce qu'il en reste d'autres? Puis c'est là qu'ils vont devoir enquêter pendant de longues minutes, savoir c'est qui ces gars-là, ils sortent de où, c'est-tu un membre de gang ou c'est un loup solitaire, avec qui ils travaillaient. Là. Il y a beaucoup de travail qui va devoir se faire alentour du profil. Je comprends mieux maintenant pourquoi est-ce que les policiers ont peut-être pas donné tout de suite de communiquer au public, parce que à toutes les fois qu'ils donnaient l'information, ils auraient également informé les personnes, parce que leur intention était claire de faire feu sur des policiers.
En effet. Roger, dans l'histoire au Québec, est-ce qu'on a déjà vécu un guet-apens comme ça envers des policiers? Bon, moi, j'ai 46 ans, j'ai pas mémoire de ça. Toi, qui en connais plus parce que tu as été policier, est-ce que c'est déjà arrivé?
Moi, au Québec, non, j'en ai pas de cas comme ça. On a eu des cas qui ont été, pensons au Nouveau-Brunswick, la très longue poursuite où plusieurs policiers s'étaient fait abattre, mais la personne s'était emparée d'un véhicule de police et s'en était pris à des policiers par après, successivement. Le manque de communication entre les policiers avait amené quelque chose comme ça. Mais une scène du genre, une trappe comme ça, non, j'en ai pas en tête aucune en ce moment, moi, de mon côté. On a entendu des histoires comme ça aux États-Unis, mais jamais au Québec. C'est sûr que la tension, importante tension à Montréal, me préoccupe énormément. J'espère que c'est pas des choses comme ça qui sont liées à ça et des désirs de vengeance, parce que ça n'a vraiment pas sa place dans de pareilles circonstances. Là. Peu importe qui en était en ce moment au niveau des actions policières.
Un témoignage qui vient d'être publié du côté de la presse, c'est un propriétaire du délit 770 qui se trouve dans le secteur, dit avoir vu depuis son balcon plusieurs coups de feu menés par deux hommes en habits militaires qui tiraient et par la suite un policier qui s'est effondré au sol. Donc ça semble concorder avec l'histoire qu'on suit jusqu'à maintenant de potentiellement deux suspects, ce qui en a plus à voir. Un, qu'on a la confirmation qui a été abattu et malheureusement pour l'instant un policier qui a perdu la vie. On attend encore pour l'autre policier et le citoyen blessé d'avoir plus de détails.
Roger, le fait que un des tireurs aurait écrit un manifeste, nécessairement ça va aider dans l'enquête à savoir quelles sont les motivations?
Oui, ça oriente beaucoup parce que tu viens déjà de partir avec un mobile important, fait que ça peut circonscrire beaucoup plus dans quelle direction tu vas chercher. L'important maintenant est de savoir qui est en contact avec cette personne-là. Est-ce qu'il y a d'autres équipes ou sous-équipes avec lui? Rappelle-toi, quand on a eu de quoi, c'était envers le public que ça n'était pris, mais les événements du Bataclan, ils s'en prennent à une place, il y a des coups de feu tirés ailleurs, il y a des explosions plus ailleurs. C'est le genre de scène que tu veux pas avoir. Puis en Ouais, ben, on voit qu'il y a plus d'un périmètre que les policiers de SPVM bouclent en ce moment puis essayent de circonscrire. Fait que tant qu'ils n'iront pas, en fait, jusqu'à la résidence de ces gens-là, parce qu'il va falloir que tu ailles voir dans la résidence, là, qu'est-ce qu'ils ont ouais. fait avant ou après, là, tu sais. Il y a encore beaucoup de périmètres à couvrir et d'actions policières à faire. C'est là que ça demande beaucoup de calme, une bonne communication, un poste de commandement assez efficace en ce moment pour être capable de tout encadrer ça. Là. C'est pour ça qu'ils vont en donner au public, mais là, j'ai souvent en tête un terme, le besoin de savoir et le droit de savoir. J'aimerais ça tout savoir. Même tantôt, un proche à moi m'a dit, Roger, appelles-tu directement au SPVM? Non, j'irai pas déranger ces gars-là en ce moment parce qu'ils sont déjà dans le jus. Même les gens des coms, même s'ils seraient très sympathiques hey, peut-être à me répondre pour donner, c'est pas le temps, là, tu sais. Ils ont besoin de toute leur attention pour être capable d'encadrer et que chacun fasse sa tâche en ce moment. Je pense que c'est ça qui est le plus important à faire. Et avoir en tête, dépenser pour les familles, dépenser aussi pour les policiers. Regardez, à tous les jours, les gens sont sur la rue, même là. Mm-hmm. À répondre pour essayer d'offrir une sécurité aux gens, même si des fois on pense que les policiers sont pas toujours là pour nous aider. Ben, excusez-moi, c'est des arbitres sur le terrain qui sont sans arrêt en train d'essayer de gauler du mieux qu'ils peuvent. La situation pour le public.
Ah, vraiment, de penser à tous ces gens-là. Puis le mot d'ordre, on s'en était parlé en plus vendredi, Roger, le mot d'ordre va être bienveillance au sein de la société.
Vraiment.
Puis, c'est ça, c'est en faisant transmettre les valeurs de la paix, de l'harmonie puis du vivre ensemble qu'on va réussir à s'en sortir.
Oui, tu as tout à fait raison. Je pense que c'est des sages paroles, mais il faut passer de la parole aux actes en ce moment.
Okay,
c'est pas le temps de commencer à chercher un coupable, mais il faut trouver des solutions puis être en équilibre là-dedans.
Ça, c'est clair. Roger Ferland, merci beaucoup pour ta participation. Comme je t'ai dit tout à l'heure, on se reparle demain matin assurément avec
certainement. Les gouvernements. Parfait.
Merci, bye, Roger. Merci. Courte pause et on va vous résumer exactement ce qui se passe présentement à Montréal, quartier Côte-des-Neiges, avec cette fusillade où un policier a été abattu. Ça serait un guet-apens de deux tireurs envers le corps policier du SPVM.